L'heure du journal de la rédaction.
Et le journal, c'est avec vous, Nicolas Ballieu, bonsoir.
Bonsoir. Série de manifestations en vue à Hong Kong ce week-end. Les menaces de Pékin ne semblent pas avoir eu d'effet. Le premier rassemblement vient d'avoir lieu dans un parc du centre-ville. Le pouvoir au peuple, c'est le slogan. Nous irons sur place dans un instant rejoindre Valérie Crova. La honte de l'avion, ce phénomène venu de Suède, fonctionne. Il semble intégré par les Suédois eux-mêmes. L'avion est désormais perçu comme trop polluant. Désormais, le nombre de voyages baisse dans de grandes proportions. Les explications de Frédéric Faux dans ce journal. La Manche, lieu de traversée des migrants qui veulent passer vers la Grande-Bretagne. Les associations tirent la sonnette d'alarme. Une Iranienne a disparu sur un canoë. Donald Trump veut racheter le Groenland. L'idée semble farfelue, mais le président américain en aurait fait la proposition à plusieurs reprises au Danemark, selon le Wall Street Journal. Les autorités danoises auraient décliné le récit de Grégory Phillips. Et puis le coût de la vie étudiante, de plus en plus élevé, l'augmentation est supérieure à l'inflation, on révèle la dernière étude réalisée par l'UNEF, le syndicat étudiant. En cause, les loyers toujours très élevés. Fiona Mogadam viendra nous en parler. Hong Kong se prépare à 3 jours de manifestations ininterrompues malgré l'interdiction de certains défilés et les pressions de Pékin. Des pressions qui ont conduit le patron de Cathay Pacific à démissionner. Plusieurs membres du personnel s'étant prononcés en faveur des manifestants pro-démocratie. Pékin qui menace d'intervenir, mais cela ne semble pas décourager les Hongkongais. Les manifestants, qui sont dans la rue depuis 10 semaines désormais, protestent contre l'érosion du principe « un pays, deux systèmes ». Ils garantissaient le maintien du système capitaliste et une certaine liberté politique à Hong Kong après sa rétrocession à la Chine le 1er juillet 1997. Première de ces manifestations, aujourd'hui, des personnes qui se sont rassemblées pacifiquement sous le slogan « Soutien à Hong Kong ». Le pouvoir au peuple. Sur place, Valérie Crova.
C'est au son de l'hymne américain que le rassemblement a pris fin. Un rassemblement pacifique, sans débordement, auquel ont participé plusieurs milliers de personnes réunies autour du même mot d'ordre, le pouvoir au peuple. Marie en appelle à la communauté internationale pour qu'elle soutienne les revendications des Hongkongais.
Le gouvernement ne répond pas à nos demandes. Je pense que la communauté internationale doit faire pression, surtout les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ces deux pays ont des relations spéciales avec Hong Kong. Et l'Amérique se bat pour la démocratie dans le monde et le respect des droits de l'homme. Et c'est justement ce pourquoi les Hongkongais se mobilisent.
La détermination des Hongkongais n'a pas été entamée par la menace d'une intervention armée de la Chine. Bien au contraire, les militants pro-démocratie se préparent déjà à une grande manifestation dimanche au parc Victoria, où l'on attend des dizaines de milliers de personnes.
Des affrontements au Cachemire indien entre la police et des milliers de personnes à Srinagar, la principale ville de la région. Les incidents ont éclaté alors que les manifestants s'étaient rassemblés dans la ville au 12e jour d'un blocage total de la région. Le gouvernement indien a annoncé il y a quelques heures qu'il allait lever les mesures imposées pour restreindre la liberté de circulation des personnes et les communications. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour examiner la suspension du statut particulier du Cachemire par l'Inde, le Pakistan fait savoir que son premier ministre, Imran Khan, s'est entretenu avec le président américain Donald Trump. Une inflation évaluée à plus de 500%, une dette qui se creuse, un pays où les salaires des fonctionnaires et des retraités sont divisés par 10 et où un tiers de la population est au bord de la famine, ce pays... C'est le Zimbabwe. Un coup d'État a eu lieu il y a 1 an et demi pour déloger Robert Mugabe du pouvoir. Mais la population n'en peut plus désormais. Une première manifestation a eu lieu en janvier dernier, mais a été durement réprimée par le pouvoir. Une seconde aujourd'hui, à l'appel de l'opposition, a été interdite à Harare. Mais certains sont tout de même descendus dans la rue. La police a dispersé les manifestants à coups de grenades lacrymogènes. On ne saurait clore ce chapitre manifestation sans mentionner celle qui a eu lieu en ce moment, qui a lieu en ce moment à Alger pour le 26e vendredi de suite. Un nouveau rassemblement massif dans les rues du centre de la capitale, quadrillé par la police. Le mouvement de protestation qui s'apprête à clore son 6e mois sans avancer vers une solution à la crise. Tous les moyens sont bons pour rejoindre la Grande-Bretagne pour les migrants coincés sur le littoral français, par camion ou par canoë. Pourtant, la traversée de la Manche est dangereuse. Plusieurs ONG le rappellent encore après la disparition d'une Iranienne qui tentait de rejoindre la côte britannique depuis Calais sur une embarcation gonflable. La mort de cette femme serait la première parmi les migrants tentant de rejoindre l'Angleterre par ce biais. Les associations tirent donc la sonnette d'alarme à Londres, Marina Daras.
Les autorités britanniques et les associations venant en aide aux migrants redoublent d'efforts pour dissuader les migrants de traverser la Manche dans des canots de fortune. La semaine dernière, une jeune Iranienne est tombée en mer alors qu'elle tentait une traversée sur un canot gonflable avec à son bord 19 autres personnes, dont 4 enfants, tous originaires d'Iran et d'Irak. Une opération de secours impliquant la France, le Royaume-Uni et la Belgique avait été lancée et des hélicoptères de la garde côtière ont été mobilisés pour tenter de retrouver la jeune femme désormais portée disparue. Quelques heures auparavant, les gardes côtiers avaient intercepté 4 petits bateaux, dont un kayak, avec 30 personnes à son bord qui tentaient de traverser la Manche. Le niveau d'alerte avait été relevé en décembre dernier après une hausse des tentatives de traversée de la Manche. Un plan d'action avait été mis en place entre le Royaume-Uni et la France pour augmenter la surveillance des plages et des ports. Du côté britannique, 3 hélicoptères de la force frontalière et 2 patrouilleurs surveillent la côte. Mais pour les ONG, ce sont les politiques frontalières toujours plus violentes qui poussent les migrants à emprunter cette voie meurtrière pour atteindre le Royaume-Uni. En moins d'un an, près de 1200 migrants ont risqué leur vie en tentant de traverser l'une des routes maritimes les plus fréquentées du monde dans des bateaux de fortune.
Marina Daras pour France Culture. Fluxcam en français, on dira plus simplement avoir honte de l'avion. C'est un phénomène venu de Suède, l'avion trop émetteur de CO2, trop polluant. Il faudrait donc voyager moins ou autrement. On pourrait penser qu'il s'agit d'une simple campagne de pub ou d'un slogan éphémère. Eh bien, il n'en est rien. Les chiffres publiés cet été par Swedavia, l'entreprise qui gère les 10 principaux aéroports suédois, eh bien, ces chiffres confirment que cette tendance n'a rien d'anecdotique. À Stockholm, notre correspondant Frédéric Faux.
C'est ce qu'on appelle une descente en chute libre. En juillet de cette année, le nombre de passagers qui a transité sur les 10 plus grands aéroports suédois en empruntant des vols intérieurs a baissé de 11% comparé à juillet 2018. Si l'on prend comme référence la période qui va de janvier à juillet, la baisse était déjà de 8%. C'est une illustration concrète du Fluxcam, la honte de voler pour des raisons environnementales. Cette tendance, qui profite largement au train, s'est installée durablement parmi les Suédois, très sensibles au changement climatique et à ses conséquences. À Swedavia, l'entreprise publique qui gère ces aéroports, le Fluxcam est une préoccupation, mais on tient à relativiser son importance. Charlotte Lundgren est directrice du développement.
Cette baisse reflète aussi la baisse de la croissance en Suède, une monnaie plus faible et la nouvelle taxe nationale sur les billets d'avion. Mais bien sûr, nous prenons en compte ce débat sur le climat. Swedavia est déjà leader dans la gestion d'aéroports durables et nous allons continuer.
Swedavia communique beaucoup sur le fait que prendre l'avion en Suède va devenir de moins en moins polluant. En 2020, ces installations aéroportuaires seront toutes neutres en carbone. En 2025, ce sera aussi le cas de 5% du carburant fourni aux compagnies aériennes. Cela incitera-t-il les Suédois à reprendre l'avion? On ne le sait pas encore. Mais ce qui se passe dans le Royaume nordique est regardé avec attention par toute l'industrie aéronautique.
Donald Trump a parfois de drôles d'idées et celle-ci est arrangée sous cette étiquette. Selon le Wall Street Journal, le président américain aurait pour projet de racheter le Groenland. Cette île arctique, grande comme 4 fois la France, est un territoire autonome danois. À plusieurs reprises, ces derniers mois, le président américain aurait émis le souhait d'acheter cette île située entre l'Atlantique Nord et l'océan Arctique. La Maison-Blanche ne confirme pas, mais au Danemark, c'est la stupéfaction. Grégory Phillips.
À plusieurs reprises, lors de réunions ou de dîners à la Maison-Blanche, Donald Trump a, selon le Wall Street Journal, émis le souhait d'acheter le Groenland. Le journal précise que le président américain a évoqué ce projet avec plus ou moins de sérieux, mais qu'en tout cas, il a demandé à ses conseillers d'examiner cette possibilité. Ce n'est pas la première fois que les États-Unis montrent un intérêt pour ce territoire stratégique. Déjà en 1946, Harry Truman avait proposé de racheter ces terres pour 100 millions de dollars, mais Copenhague avait refusé. Si Trump s'intéresse encore aujourd'hui à cette île et à ses ses 56 000 habitants, c'est parce que les Américains y disposent déjà d'une base militaire et qu'ils voudraient aussi, selon le Wall Street Journal, marquer l'histoire comme le président Eisenhower qui, à la fin des années 50, avait fait de l'Alaska le 49e État américain. Au Groenland, ces informations provoquent des réactions mi-outrées, mi-amusées. Le ministère danois des Affaires étrangères commente « Nous aimons faire des affaires, mais nous ne sommes pas à vendre », alors qu'une visite officielle de Trump au Danemark, justement, est annoncée pour le mois prochain.
Pas besoin de cela pourtant pour réchauffer l'atmosphère au Groenland. Être étudiant coûte de plus en plus cher. L'augmentation du coût de la vie est supérieure à l'inflation, révèle le syndicat étudiant UNEF dans son étude annuelle. 2,83% cette année, alors que l'inflation est de 1,2% sur un an. Fiona Mogadam, bonsoir.
Bonsoir.
Sans surprise, c'est le logement qui coûte le plus cher.
Oui, se loger est chaque année un peu plus onéreux pour les étudiants. La ville la plus touchée en 2019 par la hausse des tarifs, selon l'UNEF, c'est Bordeaux, avec une augmentation de 11%, suivie d'Évry dans l'Essonne, plus 7%. À Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, les prix gonflent de 5%. C'est pour cette raison qu'Imane, étudiante en deuxième année de sciences du langage à Nanterre, a dû se loger bien loin de son université.
La seule chose que j'ai réussi à trouver, c'est une colocation plus au nord de l'Île-de-France, donc vers l'aéroport, du coup à une heure de transport de l'université.
Puis il y a les coûts des transports, de l'alimentation, des dépenses de santé et pour les femmes, des frais supplémentaires. Les étudiantes dépensent en moyenne 529 euros de plus par an que les étudiants, Imane confirme.
En tant que femme et étudiante, la précarité menstruelle, je la vois tous les mois parce que c'est quand même un budget de s'acheter des protections périodiques. Quand je dois ajouter presque des fois 15 euros de frais juste pour les règles, alors qu'en fait, je pourrais faire limite un panier de courses pour me nourrir dans le mois.
Et dans le budget de la jeune femme, chaque euro compte. Le salaire qu'elle touche en travaillant à temps partiel dans un fast-food couvre à peine son loyer. Travailler pour payer ses études, c'est le cas d'un étudiant sur deux, d'après l'UNEF, qui réclame une réforme profonde des aides sociales pour les étudiants. Mélanie Luce, sa présidente.
Avec une augmentation des bourses, une augmentation du nombre de boursiers, ça doit s'accompagner de mesures comme l'encadrement des loyers, comme la généralisation des demi-tarifs étudiants dans les transports en commun.
Pour les étudiants, l'UNEF demande la distribution gratuite de protection périodique à l'université, comme c'est déjà le cas à Lille.
Merci Fiona Mogadam. Autre étude annuelle publiée le même jour, celle de la Confédération syndicale des familles. Elle concerne le coût de la rentrée scolaire 2019, sensiblement équivalent à celui de l'année dernière. Mais cette stabilité cache de fortes disparités, notamment en fonction du niveau des élèves. Par exemple, le coût de la rentrée baisse pour les élèves qui rentrent en CP. Il augmente fortement pour les élèves de collège. Et cette augmentation s'explique notamment par l'augmentation des dépenses en équipement sportif, que ce soit tenu ou matériel. On ne se lasse jamais de redécouvrir les grandes œuvres et parfois des petits coups de pouce nous y aident. De nouveaux documents d'Antoine de Saint-Exupéry ont été retrouvés en Suisse dans une vieille bâtisse d'un collectionneur. Trois dessins, un poème et une lettre d'amour de l'auteur à sa femme. Une découverte de nouveaux trésors, certes, mais la découverte en question n'apporte pas de nouveaux éléments sur l'auteur. Le biographe d'Antoine de Saint-Exupéry, Alain Vircondelet.
Il y a effectivement régulièrement des documents qui sortent, qui surgissent et qui sont tout à fait étonnants parce que il y a eu à un moment donné, après la guerre, il y a des documents qui ont été volés à un moment donné lorsqu'ils sont partis pour au moment de l'exode. Alors d'où viennent ces documents? Qu'est-ce qu'ils apportent? Je pense qu'ils n'apportent pas grand-chose parce que les trois documents qui, semble-t-il, ont été retrouvés, c'est-à-dire, je crois, le boa, également le baobab et puis une scène du renard. Ce sont des documents qui ont déjà été dessinés, signalés, même en double dans les documents qu'on a retrouvés après ou même dans les archives de Consuelo de Saint-Exupéry. Ce que je constate, c'est qu'il y a une lettre d'amour à Consuelo, ce qui justifie de façon tout à fait incroyable l'histoire que le petit prince, le récit j'entends, le petit prince est véritablement une histoire qui relate l'histoire d'amour de Consuelo, entre autres, et de Saint-Exupéry, puisque le livre a été écrit lors de leur retrouvaille, si j'ose dire, amoureuse, à Long Island, aux États-Unis, l'été 42.
Alain Vircondelet, le biographe d'Antoine de Saint-Exupéry, était interrogé par Laura Dulieu. Le temps sera bien pluvieux demain au nord du pays, des pays de Loire et du Poitou, au centre, l'Île-de-France et sur le reste des Hauts-de-France, le nord de la Bourgogne, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Il va pleuvoir pratiquement toute la journée. La Bretagne et la Normandie ne connaîtront la pluie que le matin. Sur le reste du pays, le ciel, heureusement, sera un peu plus ensoleillé. Les températures demain matin, 15 degrés à Strasbourg et Clermont-Ferrand, 17 à Paris, 16 à Nantes, 18 degrés à Marseille. Cette édition est terminée. Elle a été préparée avec Jean-François Braun et réalisée par Inès De Bruyne.